Дзед попречь убраля маса, павею да молодцей дама. Дзед попречь убраля маса, павею да молодцей дама.
Elles en parlent encore tous les quatrièmes samedis du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles.
Капу, даже лабу и оленю, даже лабу кану капу, даже лабу и оленю.
Bienvenue dans l'émission Elles en parlent encore, émission de Vie Féminine Bruxelles, tous les quatrièmes samedis du mois, entre 13 et 14 heures sur Radio Panique 105.4 FM. Parmi les priorités de travail de Vie Féminine Bruxelles se trouve la question du rapport entre le logement et les femmes. Sujet riche et complexe, nous allons aujourd'hui l'aborder pour la seconde fois. Souvenez-vous, au mois de novembre 2007, nous avions déjà commencé la réflexion en compagnie d'Annette Perdance et de Yannick Paulet. Nous avions entre autres abordé la répartition des espaces de vie à l'intérieur du logement entre les hommes et les femmes, et aussi comment cette répartition traditionnelle était mise à mal par la pauvreté à Bruxelles. Rappelons qu'un tiers des Bruxellois vivent en dessous du seuil de pauvreté, dans de très petites habitations et avec un manque total d'espaces privatifs. Nous avions ébauché une réflexion sur la conception des villes par les hommes et l'impact sur la vie des femmes. Nous avions discuté sur le fait que peu était fait pour permettre aux femmes de reprendre le pouvoir sur la conception et la réalisation de leur logement. Matériel mal adapté, pas de vêtements de travail conçus pour elles, etc. Nous avons aussi tenté, à travers l'histoire des béguinages, de comprendre comment les femmes ont pu, à un certain moment, reprendre du pouvoir sur leur existence et améliorer leurs conditions de vie en se groupant et en mutualisant leurs ressources. Aujourd'hui, en complément de cette émission, nous allons vous apporter deux autres regards, celui d'André, Martha, Hélène et Jacqueline, d'Entre Voisins, et celui de Gisèle, du Jardin du Béguinage. Gisèle nous parlera de son expérience d'habitat groupé. Mais avant d'aller plus loin, un commentaire sur le reportage Entre Voisins. Entre Voisins est une maison Abbeyfield située à Etterbeek. Abbeyfield est à la fois un concept d'habitat groupé et un mouvement de volontaires qui aide des aînés les plus isolés mais autonomes à partager un cadre de vie épanouissant. Abbeyfield est le nom d'une rue de Londres où a été fondée la première maison. Ce mouvement, fondé en 1956, représente aujourd'hui 900 maisons situées dans 16 pays, abritant 10 000 seniors et encadrées par 15 000 volontaires. En 2000, le projet Entre Voisins a bénéficié de l'aide de la commune d'Etterbeek, puisque le bourgmestre décida de mettre à disposition des maisons appartenant à la régie foncière de la commune, qui en assurera elle-même la rénovation et les transformations requises par les standards d'Abbeyfield. Ce projet a bénéficié aussi de subsides de la région bruxelloise, ce qui a permis de réserver l'accès à la maison à des personnes aux revenus modestes. Le 16 juin 2003, l'ASBL Entre Voisins Maison Abbeyfield Etterbeek a été constituée. Elle a procédé à l'admission définitive des candidats habitants et a signé un bail emphytéotique de 35 ans avec la commune. La maison est composée de 8 petits appartements, 40 mètres carrés, de pièces à usage commun et d'un jardin. Comme le dit l'un des habitants dans le reportage, la vie personnelle ici de chacun, de nous, est totalement respectée, mais c'est à nous de l'équilibrer avec la vie participative. Un travail pas toujours facile, mais la tolérance est de mise dans cet habitat groupé. Hommes et femmes de tout milieu social et de toute conviction s'y côtoient. Écoutons plutôt.
Il y avait ici trois petites maisons qui allaient être détruites, qui appartiennent à la commune. Et donc, il faut aussi bien situer que c'est un habitat groupé dont nous faisons partie d'un mouvement international qui s'appelle Abbeyfield, que Abbeyfield Belgium, il y a des volontaires, des gens qui ne seront jamais habitants, et qui volontairement... Oh, c'est pas grave. Mais qui... Non, importe. Mais qui volontairement travaillent pour nous donner la possibilité de vivre dans un habitat groupé. Donc, qui ont quelque chose à voir d'après leur profession, si c'est un avocat, si c'est un notaire, si c'est un je ne sais pas quoi. Ils font tout ça volontairement, ils sont des bénévoles. Donc, nous ne serions pas ici si nous n'avions pas eu cette aide-là. Et la même chose pour avoir des subsides. Donc, c'est notre président d'Entre Voisins qui est maintenant vice-président de Béfil d'ailleurs, depuis pas longtemps, qui a fait toutes les démarches. Quand il a vu que ces trois maisons allaient être détruites, il s'est précipité chez le bourgmestre, et qui était intéressé donc au projet, et qui a dit, ben oui, au lieu de les détruire, transformons ces trois maisons en un impôt votre habitat groupé. Donc nous avons un bail emphytéotique avec lui, mais notre vie ici participative, la commune n'y a rien à y voir.
Vous avez même un ascenseur.
Comment ?
Vous avez même l'ascenseur.
Heureusement. Dites à l'âge qu'on a tout de même. Non, et il était en panne quand on a emménagé, c'était terrible. Oh, on est au début, nous avons tous été pris dedans dans l'ascenseur en panne.
Combien vous étiez
dedans ? Non, on n'en a plus d'autres. Oui. Avant qu'il soit tout à fait en ordre, on en a vu toutes les couleurs. Et c'était au début, ça veut dire que pour emménager, c'est pas drôle.
Voilà.
André, tu as la parole.
Ah ben non. Quoi? C'est aux dames la parole. C'est la vie féminine. Allez, et tu commences.
Alors, allez, tu commences, Martha.
Oui, je m'appelle Martha. Je suis arrivée ici la fin de juillet. Je suis la dernière arrivée, c'était le dernier appartement qui restait.
Ah, bien sûr.
Et bon, je suis depuis presque 10 mois déjà ici. Je suis très heureuse d'être ici.
Tu te présentes simplement, elle ne va pas trop loin.
Oui. Ok. Mais je m'appelle André Scarnier. J'ai fait une carrière dans la métallurgie. Bon. À ma pension, je suis venu ici pour vivre une vie de famille, une deuxième vie de famille, parce que j'en ai déjà une avant. Et je m'occupe un peu du jardin, un peu ce qu'il y a à faire, quoi, un peu. Pas trop, parce que je n'aime plus beaucoup le travail. Après avoir travaillé 50 ans, on commence à dire, le travail c'est dur.
Eh bien, je suis Hélène de Burbure. Je suis une arrière-grand-mère de 12, ce qui est ma richesse. Je suis une artiste sur les bords, je fais de la gravure et des collages. Et voilà, je suis ici depuis presque 4 ans. Avec André, nous sommes dans les tout premiers. Et voilà la dernière arrivée, donc comme ça, on fait le tour.
Oui. Non, mais comment vous avez fait pour pouvoir avoir un appartement ici?
D'abord, j'ai habité avec ma fille, à Braine-l'Alleud. Tout un coup, par hasard de la vie, pour mon chance, j'ai vu à la télévision le programme d'Entre voisins. Et ma fille m'appelle, maman me dit, regarde la télévision, il montre quelque chose. Mais quand je suis arrivée, j'étais presque à la fin. Mais ce que j'ai entendu, c'est qu'on vivait ensemble, qu'on faisait des choses ensemble, qu'il c'est un habitat groupé. Qu'est-ce que c'est ça? Et alors, le lendemain, je me suis levé tôt, j'ai commencé à téléphoner partout. Et justement, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombée sur une personne à la commune qui connaissait tout. Même le numéro de téléphone du président.
C'est normal.
C'est une belle chance. Il m'a donné le téléphone et j'ai téléphoné tout de suite. Non, d'abord, j'ai écrit une carte, une lettre.
Mais il faut dire que c'est obligatoire. La première chose qu'on doit faire comme candidature...
Il y a des choses à suivre, non?
Oui, le règlement, exactement. La première étape,
La première étape, c'est écrire une lettre.
De motivation.
Manuscrit. Et après, il m'a donné rendez-vous, je suis venue ici. Quand j'ai vu ça, non, de Dieu, je dis que c'est beau vivre ici, à Bruxelles. Et alors, d'abord, je devais réunir des papiers, tous les papiers pour passer une visite médicale en face à le centre médical pour les médecins contrôle. C'est une dame qui travaille avec...
C'est un médecin.
C'est un médecin entre voisins et qu'elle donne son avis sur la santé, si je suis apte pour habiter ici. Et après, il faut passer l'assistance sociale. Et entre-temps, je devais voir la personne, comment s'appelle, Mère Martine
Oui, la médiatrice.
Médiatrice. Martine aussi, j'ai eu rendez-vous avec elle, elle était chez moi.
Mais entre-temps...
Je venais de temps en temps venir manger ici pour vous connaître plus ou moins les habitants. Et après, j'ai dû faire une stage de 15 jours ici sur place.
Ça, c'est obligatoire.
Bon, et à la fin, c'est le conseil des habitants qui donnait le oui et le conseil d'administration.
Qui vote. Nous
votons. Qui vote. Pas dire que c'est une chose qui m'enchante. Et donc, c'est le conseil des habitants qui approuve la...
Qui vote d'abord. Qui vote
Est-ce
d'abord.
Que cette personne... les questions sont très bien faites. Est-ce que cette personne, d'après chacun de nous, mais en privé, évidemment, vous paraît susceptible de vivre en groupe et vous, est-ce que vous voyez vivre avec cette personne? Et puis d'autres aspects.
Et dire qu'il y a déjà eu des gens refusés.
Oui. Et ensuite, c'est le conseil administratif qui vote aussi, mais c'est notre vote à nous qui est tout de même
le primordial,
c'est évident, puisque... C'est nous qui vivons ensemble.
Ouais.
Bon. Tous les appartements sont différents, mais on a tous la même surface. Et donc chaque fois, avec salle de bain et cuisine...
40 mètres carrés, je crois, à peu près.
C'est bien annoncé, alors, quand même. Oui. Ouais, hein.
Ce projet-là, ça, c'est chez Christine, qui est partie en Grèce, qui est la plus jeune d'entre nous, qui a 3 chats. Claire, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est un chien. Roger, notre expert comptable, trésorier, c'est le chiffre. Et la gendarmerie.
À première vue, ça paraît facile, un truc comme nous vivons.
Oui.
Et croyez-moi, c'est difficile. Hein? Difficile d'organiser à tout point de vue.
Oui.
Et même l'entente des gens au début. On vient d'horizons différents. Madame est enseignante, moi j'étais métallurgiste, un autre était mineur. Ça ne s'enchaîne pas facilement. Mais maintenant, on arrive petit à petit, parce que c'est trop cher.
Et d'un autre côté, c'est vrai que nos différences, c'est malgré tout une richesse. Puisqu'on n'est pas tous pareils comme des moutons. Et donc, on apprend des tas de choses les uns les autres. Mais c'est tout un chemin. Il y a une chose très importante que j'ai écrite là, qui me semble primordiale, c'est que la vie personnelle ici de chacun de nous est totalement respectée, mais c'est à nous de l'équilibrer avec la vie participative. C'est ça le travail qui nous est demandé. Hein. Ce n'est pas toujours facile, évidemment.
Et surtout la religion. Ça.
La religion.
Oui. La religion, on n'en tient pas compte, que tu sois communiste comme moi, ou que tu sois socialiste comme moi.
Oui, bien sûr. Non, ça c'est autre chose. Ça que, ici, un des principes, et tu as raison de le dire, il n'y a pas d'exclusion, ni de milieu social, ni d'idées philosophiques, ni d'idées religieuses. Et jusqu'ici, il n'y a jamais eu de dispute à ce sujet.
Jamais.
Donc, moi je trouve qu'on se respecte totalement.
Mais c'est parce qu'il faut être large, il faut traiter l'histoire, il faut respecter d'abord les gens. Si tu vis en groupe, tu dois respecter toutes les personnes, de n'importe quel mot soit-elle. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait l'université et un autre la métallurgie qui n'est pas respectée. Mais c'est ça que nous avons ici qui tient bien le coup.
Voilà Jacqueline, bravo.
Veuillez m'excuser. Jacqueline Misonne. Bon, je suis religieuse. J'étais comme profession, c'est d'abord garde-malade, puis j'ai terminé comme aide familiale, parce que j'étais en Afrique, j'ai vu des choses que je ne pouvais pas. Je n'étais plus apte à travailler en Belgique. Donc aide familiale, j'ai dans les milieux immigrés. J'ai donné des cours d'avis féminin aussi. De couture, raccommodage, même réparer des parapluies à Saint-Gilles avec les Marocains. J'ai commencé avec des Marocaines, des Rifaines et des jeunes filles qui ne voulaient pas se marier et qui fuguaient. J'ai commencé comme ça aussi.
Qu'on obligeait à se marier sans doute.
Oui, bien sûr. Qui fuguaient.
Ouais, ouais.
On, Oui. C'était magnifique. Mmh. On était très très bon. Là, c'était pendant 4 ans. 6 ans. Mmh. 6 ans. Et puis de là, non, c'était trop. J'ai passé la main à une autre personne qui, elle, a plus centré, pas sur la couture du social, mais plus sur le rattrapage scolaire, école de devoir.
Est-ce qu'on t'entend assez ?
Et alors, j'ai fait ma formation d'aide familiale pour ce milieu-là. Je suis pensionnée, j'ai 72 ans, presque 30.
Mais elle travaille toujours.
Mais je travaille encore dans ma communauté. Je suis bouche-trou, surtout à la cuisine, pour visiter les malades et les...
C'est un dit qu'on ne trouvait pas les malades.
Mais à quoi ça sert, ceci ?
Ça, c'est quand on a les repas ou quand on a des réunions pour tout le monde. Ouais.
Au début, on avait des repas tous les jours. Chacun à notre tour, on faisait la cuisine. Et au bout de presque 2 ans, ça devenait très lourd. Et au point de vue relationnel, ça provoquait des différends, les achats, etc. Donc c'était trop. Et alors notre trésorier, qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement, a une idée que je trouve géniale. Hein. Avec l'arrivée de Martha, on était 8, alors il dit, bon, ben, si on faisait 2 équipes de 4 et on fait les repas 2 fois par semaine, le lundi à midi et le vendredi le soir qu'on faisait déjà. Donc voilà, et du coup, notre président était tout de même un peu inquiet de ce changement.
Oui.
Et je lui disais, tu verras Xavier, au point de vue relationnel, ça ira beaucoup mieux.
Il l'a accepté quand même, et ça marche.
Non, et il est d'accord qu'il y a, enfin d'après ce que nous disons tous, que ça va mieux. Et le vendredi, nous dînons vers 18h, mais puisqu'on veut être tôt chez nous tout de même, mais avant ça, on a le bar.
Ah oui.
Et monsieur le barman.
Oui.
Voilà. Mais oui, mais c'est important.
Et entre parenthèses, il est vide.
Pour les repas, vous avez aussi des petits moments comme ça qui ponctuent le repas ou...
Ah, pendant le repas, oui. C'est un repas comme il y aurait dans n'importe quelle famille.
On évite, pour être vrai, on évite souvent de parler. Il y en a qui n'aiment jamais se retrouver en dehors du repas. Et après le repas prolongé et tout, pas beaucoup, tu sais, on va préférer aller chez soi, regarder la télévision, chacun son émission. C'est vrai.
Tout à fait. À ce point de vue-là, c'est très difficile d'avoir quelque chose de différent dans ce sens-là. Ça fait une grande différence, puisque vous l'avez vécu avec les habitats coupés du jardin de béguinage, où là, malgré tout, ils ont quelque chose au point de vue spiritualité en commun. Mais d'un autre côté, ils vivent chacun chez eux. Donc c'est tout à fait différent. Nous, on vit tous ensemble, mais on n'a pas de projet commun, sauf celui de vivre ensemble le mieux possible, quoi. Mais quand je pense à nos débuts, je trouve que maintenant, c'est le paradis.
Oui.
À côté des débuts qui ont été très, très, très durs.
Mais c'est-à-dire que chacun était resté sur son caractère. Il voulait défendre.
Oui, oui.
Pas son bien, parce qu'on n'a vraiment plus de bien. Mm.
Alors là, je me permets de dire quelque chose de l'aide magnifique que nous avons avec une personne qui est devenue une grande amie. Qui est une réunion mensuelle que nous avons qui s'appelle Vivre Ensemble. Et donc là, ça nous permet justement, s'il y a des trucs qui ne vont pas du tout,
des différents,
et bien, on peut en parler, et là, l'art, vraiment, un art extraordinaire.
Un art d'arrondir les arêtes.
C'est extraordinaire, oui.
Comment ça se déroule?
Oui. Est-ce qu'il y a un peu j'avais commencé à ce moment-là. On a un cahier, donc, où chacun met de quoi on voudrait parler. Mais je vous assure que même si on ne met rien dans ce cahier, de toute façon, il y a quelque chose qui ressort. Voilà.
Et vous pouvez m'expliquer comment vous démarrez cette réunion, par exemple, en lisant le cahier ?
Oui. D'abord, la veille du jour où a lieu la réunion, la médiatrice téléphone au coordinateur ou à la coordinatrice du moment qui a le cahier, qui lui lit ce qui est écrit, ou bien on lui dira, il n'y a rien d'écrit. Mais elle vient quand même. Et de toute façon, on commence, comme j'ai dit tout à l'heure, par lire le rapport de la réunion précédente, donc ce qui enchaîne de nouveau des réflexions,
les observations, etc.
Et comment vous faites en sorte pour que tout le monde puisse s'exprimer là-dessus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui distribue la parole, un objet ou des modalités entre vous? Vous levez la main ou chacun parle?
Non, pas du tout. Il y a surtout la médiatrice qui est là.
La médiatrice fait tout ce travail?
Mais oui, elle est animatrice. Hein. C'est elle qui anime la réunion.
Et donc entre vous, vous n'avez pas des petits
jeux? C'est marqué au cahier. On prend point par point, c'est marqué au cahier.
Ah, dans l'ordre qu'il est noté dans
le cahier? Oui, c'est ça. Mais quand il n'y a rien, on est là tout de même. On finit toujours par parler de quelque chose.
Et vous avez parfois des grands éclats de rire ou des grands moments mémorables de ces moments de vie, de réunion?
Avec elle, certainement, maintenant qu'on se connaît mieux, c'est vraiment une réunion agréable et absolument nécessaire qu'on ne voudrait pas ne pas avoir.
D'accord.
Ça fait vraiment partie de la vie dans la maison. Alors, en plus de ça, au point de vue organisation, Martha, tu pourrais peut-être expliquer qu'est-ce que c'est que le conseil des habitants?
Le conseil des habitants, on se réunit une fois par mois, tous les habitants, pour voir des choses à préparer, le travail, les repas, même les repas, ou parfois s'il y a quelque chose à éclaircir entre les habitants.
C'est surtout les aspects pratiques de la vie
pratiques de la maison. De la vie.
Pas tellement le vivre ensemble.
Et ça, c'est fait une fois par mois, entre tous les habitants. Et entre les habitants aussi, il y a des propositions à faire, s'il y a des tâches à remplir, s'il manque quelque chose, tout ça c'est perçu dans les réunions.
Dans le conseil des habitants. Conseil. Et il faut ajouter qu'il y a à tour de rôle, mais on a le droit de ne pas le faire, de ne pas l'être, de ne pas accepter, un coordinateur ou une coordinatrice. Et ça a quelque chose à voir avec les charges, parce que par exemple, c'est coordonné. Si quelqu'un a une charge qui doit absolument être faite et qui ne peut pas être là, c'est à cette personne-là de s'arranger avec d'autres pour la remplacer, faire ce qu'il faut faire. S'il y a une urgence dans la maison aussi, c'est à cette personne à recevoir les gens.
Ici, de ce côté-là, la terre est bonne, et malgré tout.
Ils disparaissent, les plantes disparaissent.
Quand ils ne poussent pas, alors.
Ils ne poussent pas, beaucoup pousseront.
Et qu'est-ce que vous avez planté ici, en fait, déjà?
Oh, planté tout.
Et donc, Jacqueline, c'est la grande main verte, aidée par l'autre pouce vert.
Oui, oui, mais c'est une main verte. Véritable.
Oui.
Et le jardin, comment vous avez eu envie, vous avez eu envie de le restaurer, vous avez... quand vous avez commencé à vous préoccuper de cette cour intérieure?
Quand je suis venue voir qu'il y avait des travaux, on voyait, d'ici on voyait le ciel et on voyait la cave. Vous dire que c'était complètement vidé. J'ai des photos. Il y avait un petit jardin. J'ai demandé à l'architecte de ne pas faire le jardin avec du buis bien arrangé, que d'avoir uniquement mettre la bonne terre. Parce que je voulais des plantes vivaces. Alors du côté gauche, mur, c'est très bien. Ici, c'est beaucoup moins bien qu'ivant. Et de l'autre côté, il y a beaucoup de bricolons, parce que c'était plein de bricolons. Alors ils ont retiré, oui, mais ils auraient pu retirer certainement un peu plus, une remorque en plus, quoi. Mmh. Ouais. Et c'est ce qu'il a fait. Mais non, pas ce qu'il a fait, parce que pour l'inauguration ici, il fallait tout de même un look un peu spécial. Donc ils avaient mis des tapis de prairie, de pelouse.
De faux gazon, hein.
De faux gazon,
oui.
André a...
retourné la terre.
A tondu plus d'une fois, et puis après ça, on en a eu assez. On a mis des plantes.
Mais moi, je suis venu ici dans ma maison quand il y avait encore 50 cm, il manquait de la terre. C'était des poutrelles qui ont passé dessus.
Oui, tu as apporté de la terre, je me souviens.
Elle a apporté de la terre. Oui.
Est-ce que vous avez un bon que faites attention parce que c'est dangereux. Hein?
L'ascenseur, et surtout, il y a des bruits bizarres.
Bizarre.
Ne vous en faites pas.
Ça dépend des moments. Hein. Il y a des jours où c'est pire.
Maintenant, comme nous sommes à quatre, peut-être qu'il va faire moins de bruit.
Surtout qu'avec notre poids lourd, Martin. C'est important de dire que Jacqueline Elle a vécu notre aventure bien avant nous. Parce qu'elle était vraiment dans le projet avec notre président. Donc elle a vécu toute une partie que nous ignorons même.
Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quelles sont les conditions que vous avez dû réunir pour d'une part avoir vu sur ce bâtiment-ci. Et puis, qu'est-ce qui vous a permis de pérenniser votre projet d'habitat groupé ?
Ici, c'était un quartier qui avait droit à des subsides, à la rénovation, vu qu'il y avait la communauté européenne d'un côté. Tout ce quartier-ci est rénové, mais ça continue. Donc, il y avait des fameux subsides à la rénovation. Puis, on a dû... c'était aussi des taudis, trois maisons taudis, mais qui puaient le moisi et le tout. C'était déjà abandonné depuis longtemps. Tout ça, il a fallu assainir. Donc, il y avait encore aussi tout, certainement d'autres... je crois qu'il y a eu 60% des travaux qui ont été énormes. Puis, ça a patienté plusieurs années parce que en commençant les travaux, ils ont remarqué, l'architecte a remarqué qu'il y avait de l'eau dans le cœur. Donc, on a toujours patienté encore pour avoir des subsides, pour... étanchéisé, donc avec du ciment, avec je ne sais quoi. Donc chaque fois ça reprenait. Et il fallait se patienter vu que les subsides étaient nécessaires.
Et il fallait les trouver, les subsides.
Ben, les subsides, oui, mais quand c'était la rénovation, c'était...
La rénovation, mais en dehors de ça, est-ce qu'on n'a pas eu des subsides de la région ?
Et tout ça sont des subsides qui font partie normalement.
Ah bon ?
Soit parce que ce sont des quartiers à rénover, soit parce que...
Ah bon, moi je veux bien, j'apprends.
Comme maintenant, ça, c'est pour le...
Oui.
Le chauffage solaire ou
oui.
Tu as toujours des choses pareilles. Donc la régie a bénéficié de beaucoup de régies. C'est comme ça que pour la première condition qu'il faut, c'était avoir de petits revenus, comme pour les habitations sociales.
D'accord.
Ça c'est la première condition. Avant de dire que ça plaît ou que ça ne plaît pas.
Et donc, vous avez attendu combien d'années avant de pouvoir ouvrir la porte ?
Moi, j'ai attendu longtemps parce que j'étais dans un habitat demi-sous-sol où je pensais y être pour un an. Et au lieu de ça, je suis restée 4 ans. Donc, il a fallu trouver, mais on a certainement commencé ici 2 ans plus tard que ce qu'il me fallait.
Et vous êtes donc ici depuis combien de temps ?
Depuis 4 ans. Juin 2000.
Il y aura 4 ans, fin juin.
Il y aura 4 ans, 2004.
Oui. Donc les travaux
ont commencé. On devait entrer déjà en 2002.
Oui, oui.
Et chaque fois, c'était prolongé de 6 mois. Et puis on savait que ça allait être prolongé. Je vois encore ici, avec des personnes qui n'ont pas été acceptées, d'autres, l'architecte et quelqu'un d'autre, dit, monsieur, vous nous promettez que c'est pour ça, parce que moi, je suis sans logement, j'ai déjà donné mon renom. Oui, sûrement.
Oui.
C'était un an plus tard.
Oui.
Ah oui.
Donc, il y a plusieurs possibilités de payer son loyer. Il y en a même 3. Enfin, disons que pour laisser justement les possibilités aux personnes qui ont un revenu très modeste de tout de même venir avec nous. Alors, cela va entre 400 et des et 600 et des. Mais cela comprend plus que le loyer. Cela comprend beaucoup tous les frais.
Téléphone.
Le chauffage, l'eau.
La nourriture.
Alors même nous recevons chaque jour 3 euros pour un repas, je dirais, social. Donc quand nous n'avons pas de repas ici, on nous rembourse, puisque nous avons droit à 3 euros. Vous voyez ? Voilà. Alors, celui qui est trésorier n'a pas la vie facile, ça je dois dire. Hein.
Non.
Voilà. Bon, il y a donc toutes les charges dans la maison, il y a tout ce que nous avons raconté. Cela, c'est une spécificité aussi de notre habitat groupé, parce que ça n'existe pas en tant qu'habitat groupé participatif. Pour revenus modestes, nous sommes les seuls à Bruxelles. Donc, il y a d'autres maisons à Bayfield. Celle de Namur, c'est celle qui nous ressemblera le plus, paraît-il, à ce point de vue-là. À Lix, ils ont des revenus tout de même plus aisés que nous. Ils ont une housekeeper comme en Angleterre, parce qu'au fond, le projet vient d'Angleterre. C'est pour ça que ça s'appelle à Bayfield, c'est le nom de la rue où c'est né. En Angleterre, il y a presque entre 800 et 900 maisons. Oui. Donc, il y en a dans tous les pays de langue anglaise, évidemment, plutôt, puisque ça a démarré là-bas. En France, comment ça s'appelle ? En Hollande, il y en a, en Allemagne. Et en Belgique, donc, il y a Lix près de Liège, Namur, Bruxelles, Watermaal-Boisfort va s'ouvrir bientôt aussi. Ce sera un habitat groupé, mais aussi, je crois, pas encore tout à fait comme le nôtre. C'est pour ça que c'est important que nous ayons fait cette petite feuille, parce qu'au fond, chaque maison, toutes les maisons ont la même base de solidarité et de respect entre nous.
Oui.
Et toutes les maisons sont aidées avant d'y entrer par les volontaires à Béfil, mais on a chacun nos spécificités. Hein.
C'est bien ça. Vous avez peur?
Non. Ah, t'as jamais eu peur.
Je descendrai par les escaliers après. Hein. Je n'aime pas les ascenseurs.
Vous n'aimez pas? Vous
dire, non.
Comme ça.
Non, non, il n'y a pas de souci, je veux garder mon calme, tout ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais je descendrai après.
Oui, on descend toujours après.
C'est pour monter.
Vie féminine, elles en parlent encore, il s'agissait d'une interview réalisée par Tamara. Nous allons maintenant passer au témoignage de Gisèle van der Kamen. Avec Gisèle, un peu en ligne droite avec l'historique des béguinages tracé lors de l'émission consacrée au logement du mois de novembre dernier, nous allons découvrir une expérience d'habitat groupé. Ici aussi, un groupe de personnes de plus de 60 ans s'est formé, s'est organisé, a obtenu l'appui de la commune pour rénover des logements et vivre un mélange d'autonomie farouche, d'indépendance et de temps de partage, pour ainsi obtenir une meilleure qualité de vie. Avec eux aussi, nous allons aborder les abords de la vieillesse solitaire, et donc souvent précaire, tant au niveau financier qu'au point de vue de la santé, qui est statistiquement plus le lot des femmes. Nous allons voir comment, avec un peu de créativité et d'engagement social, nous pouvons lutter pour améliorer la qualité de vie des personnes plus âgées, comme dans les logements kangourous, où une personne âgée et une famille sont abritées dans le même logement, tout le monde y gagne. La famille qui bénéficie parfois d'un babysitting et la personne plus âgée qui bénéficie d'un entourage. Cela permet à chacun de garder ou trouver sa place dans la société. Mais le mieux est sans doute d'écouter Gisèle. Bonjour, comment vous appelez-vous ?
Gisèle van der Kam.
Quel est le lieu où l'on se trouve ?
Notre habitat, le jardin du béguinage à Etterbeek. C'est une petite association de gens qui veulent essayer de partager tout en gardant un maximum d'indépendance. Donc, on dirait qu'on est tout le temps entre deux pôles, solidarité et autonomie.
Vous avez appelé cela le jardin du béguinage, pourquoi ?
Mais le site s'y prête. Nous sommes des petites maisons alignées gentiment par groupe de 8, tout autour d'un jardin public. Semi-public, 32 petites maisons autour du jardin, et le jardin du béguinage proprement dit est réservé à des personnes de plus de 60 ans, hommes ou femmes, et les maisons elles-mêmes donnent un peu l'impression d'un béguinage. Nous avons normalement 50 mètres carrés habitables, mais en réalité il y a nettement plus parce que l'étage est aussi habitable. Au rez-de-chaussée, nous avons 45 mètres carrés, deux pièces, donc une cuisine, salle de séjour et un salon. Chez moi, c'est un bureau. Et il y a une dizaine d'années, les maisons ont été rénovées par des associations. L'une venait de Louvain-la-Neuve et s'appelait le Petit Béguinage. Là, les personnes sont propriétaires de leur maison. Ici, les maisons existaient et elles appartiennent actuellement à la commune d'Etterbeek, et nous avons donc décidé, enfin les membres de cette petite association ont voulu rénover ces maisons qui étaient complètement abandonnées. Il y avait encore deux, sur les 32 maisons, il y avait deux ou trois maisons occupées, pas plus. Alors après la rénovation, qui n'a pas été très facile, qui a duré quand même 2-3 ans avant qu'on y arrive, nous y habitons maintenant depuis presque 10 ans. Et c'est le même groupe. J'étais la troisième arrivée ici et nous y sommes toujours. Les trois premiers y sont toujours.
Alors. Pour préciser, comment vous avez obtenu les moyens de rénover ces bâtiments? Qui vous a donné l'autorisation de pouvoir emménager et rénover?
Ah, mais la commune d'Etterbeek a été très contente de cette proposition, parce que ce terrain était à l'abandon et était vraiment occupé par la drogue et vraiment mal fréquenté. Et donc, pour le voisinage, c'était une très bonne chose que ce champ urbain disparaisse. Et nous avons obtenu des dons, quelques dons, et aussi des avances que nous arrivons à payer avec les locations. Modestes, mais suffisantes pour rembourser dans un délai suffisant.
Donc les travaux se sont achevés. Combien de personnes habitent ici aujourd'hui?
Il y a 8 maisons. Normalement, ça, on pourrait avoir des couples, mais jusqu'à présent, c'est surtout des femmes. Depuis 10 ans, 2 personnes y sont décédées. Une dame au début, et une grande pacifiste d'ailleurs, avec qui on militait. Et puis un homme qui était le plus jeune, mais qui est décédé d'un cancer.
Donc, toutes les maisons ont une vue sur la rue et sur les
oui.
Jardins.
Oui.
Toutes les maisons ont une vue.
Et l'hiver, ces petites boules rouges, là.
C'est les cerisiers du Japon.
Ce sont des pommes.
Pommes.
Ce sont des petites pommes garnies. Elles ont été mises là.
La commune a payé...
Et
je ne sais combien de millions pour que la
pure folie, la scandale, hein. Nous en profitons le mieux possible, mais nous on était choqués.
Allez, on rentre parce qu'on ne va pas vous faire jaloux.
Allez, asseyez-vous là. Est-ce que vous voulez un peu de café?
Moi je veux bien. Comment se conçoit la vie en commun dans ce jardin du Béguinage?
Peut-on parler de vie en commun? Je crois surtout qu'on est très indépendantes l'une de l'autre et que c'est une condition pour pouvoir résister, mais on sait aussi que quand on est en difficulté, on peut aller sonner chez sa voisine, son voisin, il y a une solidarité qui va de soi.
Quelle occasion, quel moment valorise le fait d'être dans le jardin du Béguinage?
Oui. On a cherché au début comment on allait pouvoir établir des liens entre nous sans exagérer et en tenant compte de notre emploi du temps. Plusieurs d'entre nous étaient encore des militantes pures et dures, et donc les soirs sont très occupés, et puis il y a les petits-enfants, et puis enfin il y avait 36 choses. Donc on s'est rendu compte que c'était le matin qu'on arrivait à se retrouver. On a décidé le mardi matin, et il faut essayer de le mettre à l'agenda et s'y tenir le plus possible, parce qu'il y a des personnes âgées qui ont encore beaucoup de relations, n'ont aucun problème, mais il y en a d'autres pour qui, avec l'âge, les relations diminuent, et donc ce moment de vie en société est très important. Certaines s'y préparent vraiment, en sachant ce qu'elles vont partager, parce qu'on a un tour de parole, hein, parce que sinon les timides ne parleraient jamais. Donc chacun prend la parole, non pas un tour de table, mais on fait circuler un objet. Et quand on a fini de parler, on remet l'objet au milieu de la table, pour faire comprendre que c'est fini.
Pour le mardi, le petit déjeuner, comment s'organise ce moment-là?
Le déroulement. Mais donc, à 8h30, tapant, on se retrouve dans une des 8 maisons, chacune notre tour. Et donc, condition pour être ici, avoir une table suffisamment grande pour pouvoir prendre un petit déjeuner à 8. Nous commençons par un temps de silence, un quart d'heure. La personne qui reçoit peut proposer un peu de musique ou un texte ou une intervention personnelle, et puis on se tait. Alors pour certains, c'est sans doute un temps de prière. Moi, je dirais que c'est un temps de respiration, d'essayer de remettre un peu d'ordre, un peu d'espace intérieur pour pouvoir accepter les paroles des autres. Et donc, ça me paraît important. Et puis, nous prenons un petit déjeuner, tout simple, et pendant lequel nous faisons passer les messages, disons, plutôt matériels, les choses à, les questions pratiques à régler, s'il y en a, comme le compost commun, parce que nous avons un compost commun. Et puis, après le petit déjeuner, nous faisons donc le tour de table de ce que nous avons envie de partager dans le groupe. Normalement, il était prévenu que ce soit 3 minutes par personne. En fait, il y en a qui prennent 30 secondes et il y en a qui prennent un quart d'heure. Voilà. Pour le déroulement.
Vous parliez de solidarité qui va de soi. Il y a des habitats groupés qui ont une charte, qui écrivent une charte entre eux. Vous n'avez donc pas de charte ?
Oui. Oui, on a une charte, mais on ne s'en occupe pas beaucoup. Hein? On y a mis quelques points importants, mais on la dépasse largement. Mais on a pris du temps au début à rédiger une charte, et on s'est fort engueulé sur la charte.
Outre le déjeuner du mardi où vous prenez le temps de vous retrouver, de partager ensemble, est-ce qu'il y a d'autres objets ou d'autres moments qui vont être collectivisés et partagés?
Mais depuis le début, nous avons un groupe d'accompagnants. Ce sont des personnes qui n'habitent pas ici. Certaines sont plus âgées, d'autres moins. L'une a 50 ans, l'autre 60, la troisième, je crois, 70. Donc, c'est pas une question d'âge. Et une fois par trimestre, nous avons une réunion avec ces personnes qui se termine par un petit repas fromage. Et ça nous permet, d'abord, c'est un lieu de réflexion sur l'avenir des habitats groupés. Hein, c'est un lieu ouvert sur les problèmes du monde, et donc on réfléchit à ces questions-là ensemble, avec ces personnes-là, qui y sont intéressées. Et l'autre chose, l'autre point important, c'est la manière dont nous nous sélectionnons entre nous. Hein, pour habiter ici, il y a des critères, et cette réunion avec les accompagnants a permis d'éclaircir ces critères, parce qu'au début, on a un peu tâtonné.
Justement, allons-y. Comment se passe ce moment d'accueil? Quels sont les ressorts dont vous disposez ou les, entre guillemets, filtres que vous utilisez, oui, pour sélectionner la personne à habiter là?
Eh bien, une première personne reçoit pour expliquer les conditions matérielles. La limite des revenus, parce que si on a des revenus trop élevés, on ne peut pas venir ici. Et aussi expliquer comment est la maison, quitte à venir en voir une de plus près. Et alors, ça c'est le premier contact. Après ça, la personne, si elle prolonge, va essayer de nous rencontrer, nous. Soit séparément, mais ça c'est une trop mauvaise, c'est pas un bon système. Actuellement, nous avons décidé d'essayer de nous regrouper pour recevoir la personne en question. Et nous essayons de lui expliquer comment nous vivons ici et nous l'interrogeons sur ses motivations le plus simplement possible. Alors, il y a quand même une limite. Actuellement, on se rend compte qu'il est difficile de s'adapter ici au-delà de 75 ans. Si quelqu'un n'a jamais habité seul dans ce genre de maison à 75 ans, c'est vraiment très difficile de s'y mettre. Par exemple, à Bruxelles, les gens ont l'habitude de vivre en appartement. Et donc, ici, ce sont des petites maisons et c'est un peu dur quand on n'en a pas l'habitude. Hein, de plein pied avec le jardin, c'est pas très sécurisant. Il n'y a pas de volets aux fenêtres, c'est pas très sécurisant et donc il y a des personnes qui renoncent directement à cause de ça.
À l'occasion de la rencontre du mardi, du petit déjeuner, vous avez un cahier. À quoi sert-il ?
Le cahier, ah bien, c'est un petit peu le journal de bord. Et il faut y noter les grands événements, quand, parfois aussi s'il y a un problème de santé ou s'il y a un problème dans une des familles, tout en étant très discret par rapport aux familles. Très. Alors, les choses qu'on va faire en commun, si on décide qu'on va aller visiter. Et puis, il y a aussi, quand on soulève des problèmes, je dirais, sociaux, des problèmes de société. Je ne dirais pas politiques, hein, parce que nous avons des couleurs politiques très différentes. Hein. Il y a certainement des socialistes, des CDH et des écolos. Hein. Alors, bon, il n'y a pas de libéraux, je crois. On ne sait jamais, hein, on a toujours des surprises. Mais donc, on ne parle pas vraiment politique, mais problème de société, ça oui.
Est-ce que cet habitat groupé se veut laïque ou est-ce qu'il y a une connotation plus religieuse ?
Ben voilà, dans les statuts, nous avons le mot chrétien. Nous avons réfléchi dernièrement, après les 10 ans, parce qu'on vient de fêter les 10 ans d'existence, de l'ensemble, depuis le début des travaux, hein, il y a 10 ans. On n'a pas 10 ans ici directement comme habitante. Et on s'est dit, va-t-on garder l'appellation chrétien dans les... Et on l'a gardé en tant qu'inspiration, parce que notre génération a vraiment des racines chrétiennes, même si on prend distance par rapport à la religion, on reconnaît les racines chrétiennes et donc on n'a pas voulu supprimer le mot des statuts, des buts du statut. Des statuts. Oui.
Est-ce que le cahier amène toujours à une discussion par la suite ou à une action, par exemple, dans le cadre de problèmes de société ?
Mais non, on ne va pas jusque-là. Le cahier est tenu par celle qui est de bonne volonté pour le tenir. Et quand on le tient parfois très longtemps, parce que personne d'autre ne veut le prendre. Alors, et on ne s'y réfère pas beaucoup. Simplement, la semaine suivante, on essaye de le reprendre pour voir qu'est-ce qu'on risque de laisser tomber et qui devrait avoir une suite. On ne s'en sert pas à la réunion avec les accompagnants. Là, on relit les 3 mois qui ont précédé. On essaye de voir s'il n'y a pas des choses qu'on a laissées tomber et qu'il ne fallait pas laisser tomber. Et on ne partage pas tout avec les accompagnants, justement parce qu'on trouve qu'il y a des choses, qu'il y a une discrétion à avoir par rapport aux gens avec qui nous vivons vraiment. Et donc on ne relate pas tout ce qui est dans le cahier aux accompagnants. C'est simplement les questions qui nous sont communes qu'on veut bien partager avec elles. Mais donc on relit quand même tous les trimestres.
Secret, la partie compost est ici. Je ne vais pas l'ouvrir éventuellement parce que c'est difficile à trouver.
Tiens, là, c'est la réserve. Oui.
La réserve du brun. Vous savez ce que c'est ? Les branchages qu'il faut mettre. Et là, c'est les outils. Donc, voilà. Et c'est fait avec des palettes. Hein.
c'est les branchages à mettre sur le compost.
Sur le compost, oui. Mais il ne faut pas en mettre trop quand même.
Séché ou quoi ? C'est uniquement avec des palettes qui sont attachées avec du fil de...
Du fil électrique ou du fil, je ne sais pas ce que c'est. C'est vraiment rudimentaire et il n'y a que la moitié ici qui s'ouvre. Enfin, on l'a divisé en deux.
On l'a divisé en deux pour faire que pour certains d'entre nous,
c'était trop lourd à soulever. Mm-hmm. Il y en a qui ont 86 ans ici.
Vous avez, outre le petit déjeuner, tu nous parlais de compost, c'est une activité commune, collective, comment vous l'organisez, à quoi sert-elle ?
Oh, mais écoute, il y a des écolos parmi nous, et donc on s'est dit qu'il fallait absolument diminuer les déchets du jardin aussi, et donc on a insisté pour avoir un compost commun, vous pourrez le voir dans le jardin, il est sous clé. Parce qu'on n'a pas du tout envie que les gens viennent y jeter n'importe quoi. Et donc, il est utilisé uniquement par les gens qui comprennent ce que c'est qu'un compost.
Combien de personnes participent à ce recyclage des déchets ménagers ?
Nos 8 maisons, et puis quelques personnes extérieures dans le voisinage qui avaient envie d'y participer.
Qui est chargé de la tâche de retourner le compost, de fermer à clé ?
Ah, chacun de nous, quand on a déposé les légumes, enfin les déchets qu'on veut y déposer, on doit fermer. Alors, il y a un maître composteur qui vient de temps en temps avec des groupes de la commune pour expliquer ce que c'est qu'un compost. Et à cette occasion-là, il retourne lui-même le compost, mais pour le moment, je dirais même qu'on le retourne un petit peu trop. Il n'a pas le temps de se faire. Alors, mais enfin ça, je laisse faire parce que je crois que chacun doit expérimenter. Moi, j'ai une expérience de compost et je sais que beaucoup de choses se font très simplement, mais je laisse ceux qui apprennent pour le moment doivent faire leurs expériences.
Quand quelqu'un veut participer au compost, comment ça se passe ? À qui doit-il demander cela ?
À l'une de nous, c'est égal laquelle, puisque nous connaissons toutes le secret du cadenas qui est sur le compost, et donc nous le communiquons quand nous sommes sûrs que c'est quelqu'un de confiance. Hein. Parce que malgré tout, il ne faut pas que ça devienne le dépotoir.
Le jardin, vous avez aussi la tâche commune de le restaurer, de l'entretenir. Comment ça se passe pour le jardin que vous partagez ?
La commune doit gérer l'entretien du jardin et nous avons devant notre maison un petit carré que nous entretenons plus ou moins bien. Certains s'en occupent beaucoup, d'autres pratiquement pas. De toute manière, le minimum est fait par la commune.
Quelle perspective vous avez par rapport à l'habitat groupé ? Vous avez parlé de tous les 3 mois une réflexion avec d'autres personnes extérieures. Comment vous promotionnez ce type d'habitat, valoriser ce type de choix ?
Il faut dire qu'il y a déjà beaucoup plus d'habitats groupés qu'on ne pourrait le penser. Hein. Mais il y a des habitats groupés qui... Les premiers habitats groupés datent de 68, il faut bien dire. Hein. Et il y a encore des traces de ça actuellement. Hein. Mais ils ont rêvé, hein. Ils ont rêvé et depuis lors, il y a beaucoup de choses. La propriété privée a repris le dessus dans beaucoup de cas. Et donc, nous avons finalement, en étant tous locataires sur pied d'égalité, nous avons cette chance-là. Hein. Parce que sinon, le jour où je meurs, si je suis propriétaire, ce sont mes enfants qui héritent. Qu'est-ce que ça a encore à voir avec un habitat groupé dans ce cas ? Hein ? On ne peut pas demander à ses enfants d'avoir les mêmes options que soi, hein ? Chacun sa vie. Et donc, le fait d'être locataire facilite les choses. Mais l'habitat groupé des 3 pommiers,
normalement, là, c'est fait uniquement pour des gens qui sont en période de crise. Et donc, c'est beaucoup moins durable. Il y a un échange beaucoup plus rapide. Mais ils ont quand même éprouvé le besoin d'avoir quelques familles très stables. Et c'est autour de ces familles très stables que les gens qui sont en crise peuvent un peu s'appuyer. Il me semble que c'est indispensable d'avoir quand même une certaine stabilité, pas aussi grande que la nôtre, hein, parce qu'ici, la plupart du temps, on reste jusqu'à ce que mort s'en suit, si je comprends bien.
La simplicité de vie, c'est une valeur qui vous touche et qui a joué dans le fait de participer à un habitat groupé ?
Ah, pour moi, oui, oui, oui. Il m'est très difficile d'accepter de vivre dans le monde actuel où on gaspille alors que d'autres ont faim. Alors, pour moi, ça, c'était une préoccupation. Hein. Et donc, entre nous, c'est certain qu'on veut garder ici une simplicité de vie. Et d'ailleurs, on n'a pas les moyens pour faire mieux, hein, pour dépenser plus. Hein.
Vie féminine, elles en parlent encore, une interview réalisée avec Alexandra et Tamara. Voilà, notre deuxième émission sur le logement se termine tout doucement. Mais les émissions avec un regard croisé sur le logement et les femmes n'est pas finie. Nous reviendrons certainement prochainement sur ce thème, puisque Vie féminine travaille depuis longtemps sur une prise de position qui devrait bientôt être rendue publique. Nous organisons probablement une émission plus axée sur le contenu de celle-ci. Nous vous remercions de votre écoute.
Elles en parlent encore tous les quatrièmes samedis du mois, une émission de Vie féminine Bruxelles. Капу даже лобу ела.